إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على صفوة الخلق المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وسن سنته وارتضى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم، أحينا اللهم على سنته ومتنا على ملته واحشرنا في سمرته واسكننا جنة الخلد في صحبته مع النبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، donc nous allons continuer sur nous avons vu dans les séances précédentes à peu près ce qu'on appelait les écoles juridiques, le madhhab, et nous avons classé globalement trois gros groupes: les sunnites, les chiites et puis les groupes un peu extrémistes genre Mu'tazila qui ont quasiment entièrement disparu. Et j'avais précisé que j'avais mis l'Ibariya dans le groupe des sunnites, alors que la plupart, je le répète, la plupart des savants les considèrent comme des khawarij, mais on ne peut plus maintenant les considérer, enfin on peut toujours les considérer parce qu'ils ont certaines théories qui ont été développées par les khawarij. Mais ils sont tellement proches des sunnites, les sunnites ne les renient pas du tout, donc on peut les classer, la différence avec les chiites, puisque eux, les hadiths, ce qui est expliqué là, la base de leur hadith, nous ne les reconnaissons pas, les gens de la sunna, et eux-mêmes ne reconnaissent pas notre source de juridiction, qui sont nos hadiths. Donc ils ont leur propre livre de hadith, nous avons notre propre livre de hadith, et on ne peut pas se mettre d'accord, parce qu'ils ne rapportent pas des hadiths des compagnons, puisqu'ils ne reconnaissent pas, quand on verra le hadith, les bases de ce truc, c'est l'adel, c'est-à-dire la justice des hadiths. C'est-à-dire pour eux, les compagnons sont des gens qui n'ont pas été justes, puisqu'ils ont combattu Ali. Ça s'arrête là, donc on ne rapporte pas des hadiths d'eux. Et aujourd'hui, nous allons commencer à parler de la base de la jurisprudence, c'est-à-dire sur quelle base ces écoles-là, là, on a vu le contexte géopolitique et culturel qui a fait qu'ils se sont distingués les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, nous allons voir sur quelle base ils ont travaillé pour extraire, et pourquoi, justement, une même source peut donner des interprétations et des différences, des choses différentes. Avant ça, je vais faire juste un petit aparté pour dire comment ces écoles-là, ils ont évolué. En fait, ces écoles-là, ils ont évolué grâce aux élèves, donc les grands savants, qui ont donné... C'est pour ça qu'on a des écoles qui ont entièrement disparu, mais c'est pas pour autant... C'est pour ça que vous lisez les madhhab, que ce soit Mel, Chef et tout, vous trouvez dans leurs livres les avis de Sofiane Thawri et d'autres de Abu Ayyan et d'autres grands savants de la truc. Ils étaient probablement, même par rapport à le propre témoignage de ces grands savants, ils étaient plus savants qu'eux, mais le problème c'est que nous n'avons plus les textes de tout ce qu'ils ont fait eux, et leur école n'a pas perpétué parce qu'on a oublié de prendre les notes parce que leurs élèves n'ont pas pris. Mais il y a eu forcément, et ça regroupe tout. J'ai déjà lu plusieurs sources qui à peu près estimé le nombre de madhhab sûr et complet, parce que s'il n'y en a que des avis sur certains trucs, à peu près à 130 voire 150 madhhab qui ont plus ou moins disparu, ou d'autres qui ont demeuré pendant l'existence, comme madhhab de Tabarani, celui qui a fait la traduction du Coran, a été une école très forte pendant son existence à lui, et après, quelques années après sa mort, mais en fin de compte, elle a été abandonnée parce que on s'est aperçu que ses avis, on les trouve dans les autres écoles et que c'est pas une école qui a une spécificité particulière. D'accord? Plus tard, aussi, il y a Ibn Taymiyyah, hein, qui a une école, maintenant on se réfère beaucoup à Ibn Taymiyyah, qui à son époque à lui avait une école pas très répandu, mais très forte, et avec beaucoup d'élèves qui sont très forts, et qui pourrait être un madhhab à part entière, sauf que, on verra, avec le temps, on s'est aperçu qu'il est très proche de Hanbal, puisqu'il est de toute façon hanbalique lui-même. Et donc, il n'y a pas de raison c'est pas la peine de créer des madhhabs. On a ces grands principes, les quatre mazahib qu'on a vus vers le sunna et avec l'ibadiyya ou zahiriyya suffisent à avoir tous les avis. Mais quand un avis est pris de Sofiane Thaouri ou de quelqu'un d'autre, ou de Hazm, comme ça, on ne fera référence à son avis sans pour autant qu'on ait besoin de créer une école. Et donc, comment le savoir de ces écoles a perpétué? Bon, grâce à leurs élèves, mais si une méthodologie de travail qu'ils ont quasiment tous adoptée. Elle se compose en fait en trois parties. Un, c'est ce qu'on appelle le moutoun. Le moutoun, jama' matn, c'est le pluriel de matn. Le matn, c'est des petits livres. Le matn en arabe, c'est le contenu. C'est des tout petits livres, mais vraiment, ça se résume en quelques pages. Des tout petits livres qui résume le principe auquel croit l'école juridique. Il vous dit comment ça démarre par salette et ça se finit par le bouillard et tout ça, les ventes et tout ça. Il résume en quelques pages tout ce qui doit être fait par un musulman. Tout l'amal est taklifi, c'est-à-dire tout ce qu'on a l'obligation de faire, les choses obligatoires pour nous. Et donc c'est des tout petits livres et la tradition était que les gens les apprennent par cœur parce que c'est vraiment des très petits. Et le moutoun en fait apparaît sous deux formes et dans toutes les écoles. Ou en prose, c'était le plus simple parce que là c'est vraiment des condensés, c'est vraiment du condensé du condensé. Et facile à lire parce que les choses sont tac 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 ordonnées 1, 2, 3, 4, 5, on passe au suivant 1, 2, 3, 4, 5. C'est très simple là, truc, il n'y a pas de difficulté à truc, les mots sont les plus simples utilisés. Et ceux qui sont sous forme de poème. Parce que c'est souvent, on a dit, le poème est plus facile, puisque l'arabe aime beaucoup la poésie, plus facile d'apprendre. Et on retrouve, dans toutes les écoles aussi, des poèmes qui sont des motouns. Mais le problème du motoun en poème, c'est que on a la contrainte de la poésie elle-même, de la structure de la poésie, donc on a des termes des fois qui ne sont pas compréhensibles par tous, et des formes, des structures de phrases qui ne sont pas compréhensibles par tous. Mais les étudiants, les apprennent beaucoup. Donc, mais sont toujours condensés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 1, 2, 3, on résume très vite ce qu'il faut savoir pour chaque chose. Après le moutoun, on a sarh al-moutoun, l'explication des condensés, et là, on donne les hadiths, les versets coraniques sur lesquels s'appuie l'école juridique pour dire que ceci est autorisé ou ceci, sharh, c'est l'explication du moutoun. C'est des livres un peu plus complets qui rentrent dans une manière de détailler. On va prendre par exemple les eaux, on va dire pourquoi certaines eaux, une école peut la considérer comme étant bonne pour les ablutions, et l'autre école va lui dire non, elle n'est pas bonne pour les ablutions. Ils vont donner les raisons, ils vont sortir les hadiths, ils vont s'expliquer. Et alors, il y a deux écoles dans ça, mais aussi, il y a deux formes, il n'y a pas deux écoles, il y a deux formes qui se trouvent dans toutes les écoles. C'est que on a des explications, donc des charges de moutoun qui se concentrent que sur sa propre école. Elle explique les raisons, les choix, les hadiths, les bases qu'utilise son école pour le truc, sans tenir compte des avis des autres écoles. Et une autre forme qui rentre dans, en fait, elle rentre pour argumenter pourquoi son argument à elle, donc elle va citer l'avis des autres, mais en fait pour l'affaiblir, pour dire nous, notre avis, il est un peu plus fort en termes d'argumentation. Donc elle va citer l'avis des autres écoles. Mais sans pour autant les justifier, puisque sinon ils changeraient d'avis. Et donc le premier livre s'adresse à tous les musulmans, puisque c'est la base de l'islam, ce qu'on doit savoir. Le deuxième forme de livre, le shuruh, s'adresse à la majorité de ceux qui veulent apprendre. Et après, on a ce qu'on appelle le hawashi, c'est-à-dire les annotations. La traduction, c'est annotation. C'est des livres qui sont plus complexe, on rentre dans des détails, on va chercher des choses qui ne sont pas été citées dans les livres, qui sont des trucs qui relèvent vraiment des spécialistes. Et on rentre dans les explications, on répond aux attaques des autres écoles, on cherche à prouver des trucs. Donc C'est un livre qui vraiment s'adresse aux élèves, étudiants qui veulent approfondir la chose. Donc on a trois formes. Donc, un petit condensé que tous doivent apprendre. Après, l'explication pour aller chercher la justification de ça. Et après, on a des livres beaucoup plus complets et sous toutes les formes aussi. Et donc, dans chaque école, on a des moutons de cette forme-là. Par exemple, Metn ibn Shayba pour l'école Shafi'ite, Metn ibn Ash pour l'école Malikite, ou Muqaddamat al-Fiqh, l'Ibn Qudama pour l'école Hanbalite, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs, hein. Dans chaque école, il en existe plusieurs. On préfère les uns et les autres, chacun préfère sa manière de. Ça, c'est en résumé. Donc, si on se repère sur la manière de la jurisprudence, sur quoi s'est construit la jurisprudence, le premier est le sur lequel il y a deux choses sur lesquelles tous les musulmans, même ceux qu'on ne considère pas comme musulmans, c'est-à-dire que le Sunna al Jama'a, ils ont fini par tous les considérer comme des musulmans, vu le déviationnisme auquel ils ont suivi, sont d'accord, c'est que la base de la jurisprudence, c'est le Coran et la Sunna. Alors, par Coran, on entend le livre, donc le livre que nous avons entre les mains, et par la sunna, les trois choses, c'est-à-dire les paroles du prophète, ses actes ou ses approbations, les actes, les approbations, et certains rajoutent aussi ses faits, c'est-à-dire les qualités qu'avait le prophète qui font rentrer dans la sunna. On en parlera plus en détail quand on parlera de la sunna. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, du Coran, du Saint-Coran. Alors, comment à partir du Saint-Coran, des écoles juridiques peuvent être en contradiction les uns avec les autres? Ben, il faut distinguer deux grandes catégories, ce qui est spécifique au Coran lui-même et ce qui est en règle générale, ce qui est le général, c'est-à-dire que on a affaire à un texte. Donc, ça rentrera dans les règles, ce qui rentrera dans les règles générales, on le trouvera de nouveau avec la sunna et avec tout ce qui est écrit d'ailleurs, puisque ça s'applique à un texte écrit. Alors, les règles spécifiques du Coran est d'abord ce qui a fait diverger les savants entre eux. Alors, les divergences, qu'on soit bien d'accord, elles ne changent en aucune manière le sens du Coran. Nous rentrerons dans des détails, mais elles ne changent pas. Ce qui prétendent certains qu'il faut, on a abandonné certaines lectures qui étaient défavorables à l'islam, peut-être. Non. Tout ça, c'est faux, les sens généraux, elles étendent, elles ouvrent une autre perspective, mais elles ne viennent pas, vous ne trouverez pas un verset qui va vous dire « buvez du vin » et l'autre verset va vous dire « elle est interdite ». Vous ne trouverez pas un verset qui va autoriser l'adultère et l'autre qui va l'interdire. Non, c'est pas du tout ça, et la lecture, il y a des petits détails qui relèvent plus des fuqaha, des savants entre eux, mais pas, il va pas venir changer les trucs. Mais par contre, on verra, on va aborder ici, il y a des versets qui vont changer complètement la vision de l'islam due à une interprétation bien spécifique. Nous viendrons en parler tout à l'heure. Donc, la première des spécificités du Coran, c'est qu'il est divisé en deux grandes parties. La partie mécoise et la partie médinoise. On a déjà parlé de ça. Et en général, on va résumer le général, c'est que la partie mécoise est celle qui vient conforter la foi, et la partie médinoise, c'est celle qui vient instituer la charia et la conduite des musulmans, et les règles spécifiques à l'islam. Sur ça, tous les savants sont à peu près d'accord, mais par contre, dans la classification des sourates, les avis divergent. Alors, ils divergent sur le terme de mécois et médinois. Alors, la première est celle qui est adoptée par la plupart des savants, c'est que les mécois et les médinois, c'est simple. C'est avant l'hégire, c'est mécois. Après le hégire, c'est médinois. C'est une coupure simple et claire. Donc, avant le jour où le prophète a émigré de la Mecque à Médine, c'est mécois, et tout ce qui est après, c'est médinois. Une deuxième classification, ils disent et mécois tout ce qui a été révélé à la Mecque. Donc ça, en fin de compte, vous allez me dire, ça n'a pas de différence avec le premier, puisque le premier c'était mécois, c'était avant l'Égypte. Oui, Il y a une période, c'est que le prophète a eu des révélations pendant son pèlerinage. Donc pendant le pèlerinage, il était à la Mecque. Alors on le classe parmi où? Les autres les classent médinois. Il les classe après, donc après l'Égir. Les autres disent non, il est mécois parce qu'il a été révélé à la Mecque. Donc ils ont une première classification, ils disent et mécois tout ce qui a été révélé à la Mecque. Que ce soit avant ou après l'Égir. On ne tient pas compte de l'Égir. Et médinois, c'est ce qui a été révélé à Médine. Et il y a une troisième catégorie, c'est ce qui a été révélé pendant ses salirs, c'est-à-dire ses voyages et ses les batailles. Quand il était ni à la Mecque ni à Médine. Ils font une troisième catégorie, ils distinguent une troisième catégorie. Et une troisième forme de classification, c'est de dire c'est mécois tout ce qui parle des gens de la Mecque et c'est médinois tout ce qui parle des gens de Médine. Même les versets qui parlent des gens de Médine qui a été révélé à la Mecque, il est médinois. Donc on classe par c'est par sens du verset, ce qui s'adresse aux Mécois, c'est Mécois, ce qui s'adresse aux Médinois, c'est Médinois. Est-ce que ces classifications-là changent quelque chose? Non. Mais c'est bon de savoir que même sur cette phase-là, les savants ne sont pas tous d'accord. Mais ça, on peut se, la classification peut se justifier. Et en fait, nous verrons aussi.
La dernière classification, on arrive à distinguer dans les versets.
Ah oui, on voit très bien ce qui parle des Médinois, ce qui parle des Mécois. Donc il n'y a pas de problème. Après, en fait, cette classification va rentrer dans le deuxième point qui, lui, est un gros problème de divergence. C'est que cette classification-là permet de donner l'ordre chronologique de la révélation. D'accord? Comment on classe les versets, c'est comment ils ont été révélés. Et donc ils vont rentrer dans la chronologie. Et la chronologie des versets est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce qu'elle va nous donner ce qui a été révélé en premier, ce qui a été révélé en dernier. Donc quand deux versets viennent se contredire, c'est le dernier verset qui prend la supériorité sur celui d'avant. Puisqu'il y a chronologie. Donc l'ordre de la révélation est très très important dans le Coran. Et là, il y a à peu près un grand consensus. Je dirais 99,98% du Coran, il y a consensus dessus sur l'ordre de la révélation. Il n'est pas contesté. Et aussi, il y a l'ordre de la chronologie, on peut aussi mettre dans l'ordre de la chronologie ce qui a été la manière dont ça a été révélé, donc chronologiquement, et maintenant, comment nous lisons le Coran. Il a été ordonné. Il n'est pas le Coran tel que nous lisons là, il n'est pas ordonné tel qu'il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une différence et on peut mettre dans l'ordre de la chronologie cette différence qui des fois va donner une interprétation particulière au sens des choses. Il y a aussi une autre différence. C'est que nous avons, il y a plusieurs, mais deux principales manières de compter les versets. Il y a deux grandes différences, c'est la lecture médinoise et la lecture koufi, de l'Irak. Ils ne sont pas d'accord sur le nombre exact des versets. Ils ne sont pas d'accord sur le nombre exact, c'est-à-dire qu'il y en a un qui où il y a plus de Coran que l'autre. Non, c'est pas ça. C'est que certains versets dans les koufi ont été coupés en deux. Et donc on a un nombre de versets plus grand. Et donc ce qui fait la différence de nombre de versets, et ce n'est pas, il n'y a pas plus de mots dans l'un que dans l'autre, c'est le nombre de versets qui a été séparé. D'accord? Donc vous trouverez souvent des chronologies, des nombres, souvent vous lisez aussi des traductions, on trouve ça souvent dans les traductions, selon la référence sur laquelle le verset il a été. Sur lequel le livre en arabe a été basé la truc, vous ne trouverez pas la même traduction, même numéro. Vous prenez le numéro 7 du verset de la vache, dans une traduction c'est le numéro 7 qui correspond au texte arabe, et si vous prenez la traduction dans un autre livre, le numéro 7, vous allez vous apercevoir que c'est le verset numéro 9 qui a été traduit, donc il faut se méfier de ça pour ceux qui lisent les versets, donc parce qu'il y a un comptage qui est différent. Donc l'ordre chronologique a fait, il y a une divergence entre les savants, mais elle est minime et il ne rentre pas, on verra après que... Maintenant, le troisième point, c'est la cause de la révélation. Alors, on sait que le Coran a été révélé pour plusieurs raisons, qu'il n'est pas descendu d'un seul bloc, et donc on peut distinguer... quelques éléments qui ont été la cause de la révélation. D'abord, une des premières causes de la révélation, c'est une réponse à un événement spécifique, bien donné, précis. Un événement. Quelque chose qui se passe, il y a un verset coranique qui vient en parler. Par exemple, comme exemple de ça, le verset de donc qui est venu rapporter ce qu'avait dit Abu Lahab, l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son oncle, au niveau d'une réunion qu'ils ont eue ensemble. Il vient rapporter cette histoire-là. Il est à Quraysh, il a fait Mrahla Tashita et Wasaif, il rapporte l'histoire des voyages, ce truc. Il file aussi. C'est un événement qui s'est passé qui était raconté dans ce truc. Donc il vient rapporter un événement qui a eu lieu. Ça c'est une des raisons, des causes de la révélation. La deuxième cause de la révélation, c'est une situation particulière. Donc il se passe quelque chose de particulier et le Coran vient l'encadrer. Comme exemple de ça, on peut donner le verset concernant les pèlerinages. Inna as-safa wal marwa min sha'a'irillah, fa man hajja wa tamara fala junaha 'alayhim an yatawafu bihima. La Safa et le Marwa sont partie des lieux saints d'Allah. Sha'a'ir, c'est les éléments d'adoration. Pourquoi ce verset-là est venu saint? Parce que dans le pèlerinage de Jahiliyyah avant l'islam, Safa wal Marwa, la circonvolution qu'on faisait entre ces deux petites montagnes là à la Mecque, existait. Et quand les musulmans ont commencé à faire le pèlerinage, la Mecque n'était pas encore ouverte pour certains. Et il y avait sur ces deux montagnes des idoles. Des idoles qu'adoraient les Mécois. Et les musulmans refusaient de faire les circonvolutions en pensant qu'ils disaient peut-être que les Mécois vont croire que c'est pour adorer leurs idoles. Donc ils avaient dans leur cœur quelque chose qui les empêchait un peu de trucs. Mais ils n'ont pas parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran est venu lever la gêne qu'ils avaient. Il a dit ça n'a rien à voir avec les statues, ça, les circonvolutions entre ces deux monts là font partie du pèlerinage musulman, d'accord? Donc c'est une cause particulière, une chose très particulière. Le Coran vient l'éclaircir, lui donner une interprétation islamique. La troisième chose, c'est on vient poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran descend en réponse, sauf le Kahf qu'on a étudié, c'est une réponse à une question qu'on a posée au prophète. On lui a demandé de parler de l'Ahl al-Kahf, de lui parler de Zulqarnayn et d'autres trucs. Oui, elle s'est révélée en entier, en un bloc. Mais il y a aussi des versets. Ça peut être aussi un petit verset. Par exemple, on est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment on partageait l'héritage. Comment partage-t-on l'héritage? Donc le verset est venu dans le Sourate An-Nisa, où c'est comme Allah en fait, comme le Zakari Mustahab al-Unthayn. Et donc tous les versets qui suivent sont venus éclaircir une question qui était posée, comment on partage l'héritage. Et il y a d'autres, il te pose la question sur le vin. Souvent on trouvera donc une question posée. Ça peut être aussi une autre manière de la source de la cause de la révélation. C'est une question qui a été posée par le prophète lui-même. Et le Coran vient répondre au prophète. L'exemple de cela, par exemple, passe en mémoire. Par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé à Jibril alayhi salam, pourquoi il ne venait pas plus souvent le visiter sur terre, parce que le prophète, des fois il y avait une coupure de la visite de l'archange Gabriel au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc le prophète voulait le voir quasiment tous les jours. Donc il lui demandait pourquoi ne te vois-je pas plus souvent. Et le verset coranique est venu, répondre à cela. C'est وَمَا نُنَزِّلُكَ إِلَّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Il ne descend sur terre que sur l'ordre de ton Seigneur. Donc, la question que le prophète a posée à l'archange Gabriel, c'est le Coran qui est venu répondre. Donc, il y a très peu de sourates dans ce sens-là, mais c'est aussi une cause de la révélation. Il y a aussi des questions générales, d'ordre général, qui parlent d'un truc très général. Par exemple, ils se posent la question sur les monstrues. Ils ont dit, comment se comportant avec les monstrues? Et donc, il y a eu beaucoup de versets qui ont venu régler la question des monstrues. Ça, c'est une question générale qui a beaucoup de versets sont venus spécifier le comportement qu'on a. Ça peut aussi être une question qui est posée par une personne tout simple, pour une raison qui est liée particulière à lui, et on a un verset qui descend et qui devient un verset général pour tous les musulmans. L'exemple de cela est par exemple la question qui a été posée par un des compagnons du prophète sur le pèlerinage où un homme qui n'a pas rasé ses cheveux, qui n'a pas coupé ses cheveux parce qu'il avait des blessures à la tête. Et donc il n'a pas rasé les cheveux, donc le rasage après la circumambulation de la Kaaba est une obligation dans le pèlerinage, celui qui ne le fait pas. Et donc il y a un verset coranique qui est tombé qui disait فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ, la fin de ce que fait Dieu son état, il vient répondre à la question du cas de celui qui a une maladie à la tête ou qui est malade, comment il doit ça. Donc c'est de nourrir dit nécessiteux ou d'égorger un mouton. Donc c'est une question particulière qu'une personne seulement a posée et c'est devenu une règle générale pour tous les musulmans. Maintenant tous ceux qui ne peuvent pas se raser la tête quand ils font le pèlerinage vont obéir à cette règle là. D'accord? Donc c'est une question particulière qui vient de donner une réponse qui devient une obligation pour tous les musulmans. Et aussi, il y a aussi, mais c'est très peu, il y a aussi des révélations qui sont pour une même cause. C'est une seule raison. On cite plusieurs versets qui auraient une même raison de révélation. Et là, ça fait divergence entre que il faudrait que je trouverai sur le site un exemple de ça. Alors, pourquoi il y a des divergences sur des savants entre ça? Tout simplement parce que, d'abord, les causes des révélations, nous les connaissons comment? par les hadiths des compagnons. C'est les compagnons qui nous ont rapporté que tel verset a eu pour raison telle chose qui s'est passée. Donc c'est des hadiths. Donc évidemment, quand on étudiera les hadiths, on verra que comment un hadith peut être rejeté, parce que la personne ne croit pas à sa sincérité de ceux qui l'ont rapporté, pas à celui qui l'a dit. Donc ça rentre dans les divergences qui a fait entre les savants pour de dire de ne pas justifier qu'un hadith puisse reporter un peu. Aussi, la divergence, c'est est-ce que les causes de cette révélation est une raison spécifique ou une révélation générale? C'est-à-dire, est-ce que le verset coranique, il ne s'adresse qu'à la personne qui a posé la question, ou est-ce que ça englobe maintenant tous les musulmans? Est-ce que le verset coranique sur ce sujet-là concerne toutes les circonstances qui ressemblent ou seulement à la circonstance de la révélation, c'est-à-dire à l'événement qui s'est passé du temps du prophète, ou on peut l'étendre jusqu'à la fin des temps? Donc les savants ne sont pas d'accord là-dessus. Ça, c'est la troisième divergence qui peut relever pour la cause de la révélation. Donc, par exemple, Tabat Yada Abi Lahabin, si on prend la première révélation, les jugements qu'on va en tirer, ils ne sont pas au sort qui file, il n'y a pas beaucoup de jugements juridiques qu'on va en tirer, donc elle ne posera pas beaucoup de problèmes. Mais par exemple, pour des situations particulières, Nasrafar al-Mar Mahon Sha'a'irillah, donc à un certain moment, poser des problèmes au savant dans sa manière de l'interpréter. Et les questions générales aussi poseront des problèmes et des interprétations générales, des trucs dus à la cause de la révélation. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer que la cause de la révélation est une cause spécifique à un événement qui s'est passé qu'à la période du prophète, donc il ne doit pas changer, ou elle peut s'étendre à d'autres choses? Et la quatrième élément, et qui est le plus important dans la jurisprudence, c'est ce qu'on appelle l'abrogeant et l'abrogé. Alors l'abrogeant et l'abrogé, c'est les versets qui ont été nasr ou al-mansour. C'est qu'un verset est à un certain moment mis en application, et après il y a un autre verset qui vient lever l'interdiction, ou apporter une autre interdiction, ou apporter une autre interprétation. Donc le premier verset n'est plus la plus courte. Alors, comment on connaît l'abrogeant et l'abrogé? Par le Coran lui-même, parce que c'est un verset coranique. Nous n'effaçons pas un verset ou nous le remplaçons sans en apporter un meilleur que lui, un comme lui ou un meilleur. Donc par le Coran lui-même, on sait qu'il y a des versets qui sont abrogés. Il y a aussi la logique en lisant le texte, on voit bien que certains versets viennent mettre de côté les autres versets. Comment on connaît l'abrogeant et l'abrogé? Ça, c'est la grande différence par les trucs. C'est par le récit du Coran lui-même. On voit dans certaines lectures que d'autres versets n'ont plus cours, par tout simplement la compréhension simple du texte. L'autre source de connaître l'abrogeant et l'abrogé, c'est les récits. C'est les hadiths qui sont rapportés par les compagnons en disant ce verset est venu abroger l'autre verset, il donne les versets. Et là, on se retrouve de la même manière, c'est-à-dire qu'on aura un hadith d'un compagnon et chaque savant va lui donner plus ou moins une certaine valeur, va le prendre ou va ne pas le prendre. Donc on verra ça quand on parlera de la sunna, l'importance. Mais on a un hadith qui peut être remis en cause. L'autre manière d'admettre l'abrogeant et l'abrogé, c'est le consensus. C'est quand tous les savants sont d'accord que ce verset vient abroger celui-là. Tout le monde est d'accord dessus, donc on ne cherche pas une preuve, un hadith, un verset. Tout le monde est d'accord que ce verset vient abroger. Il y en a plus. Et aussi, notre manière de connaître l'abrogeant et l'abrogé, c'est ce qu'on a vu dans le point 2 du début, c'est la chronologie. La chronologie qui était, je vous ai dit, elle est importante au début, elle vient prouver qu'il est abrogé et qu'il est abrogeant. C'est évident qu'un abrogeant ne peut pas être révélé avant un abrogé. C'est pas possible. Donc c'est forcément le dernier qui a été révélé qui est. Et là, on peut avoir des différences. Alors, l'abrogeant et l'abrogé, il y a une classification de 3 à peu près, on a plus, on a peut-être même 5, de l'abrogeant et de l'abrogé. Alors, la première, c'est l'abrogation du verset et de sa prescription. C'est, il n'y a plus dans le Coran ni le verset, ni dans la chaléa musulmane, la prescription. Ça veut dire qu'il y a un verset qui n'existe plus du tout, qui a été supprimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a été, la prescription lui-même a été, celui-là est très contesté par les hommes. Les gens disent non, ce n'est pas possible. Ceux qui disent que c'était un jour un verset du Coran se trompent. Ils ont fait une confusion dans leur tête. C'était un hadith du prophète qui avait interdit. Alors, l'exemple de cela, c'est le hadith de Aïcha radiallahu anhu, qui disait, parmi ce qu'on nous disions du Coran, c'est pour ça qu'on dit c'est un verset qui a été abrogé du Coran, Ashru Raza'at Yuhrim, 10 tétés interdisent. Alors, c'est quoi cette histoire-là? C'est que c'est ce qu'on appelle les sœurs et les frères de lait. C'est-à-dire qu'il est interdit à l'homme d'épouser sa sœur de lait. Et donc, comment savoir quelle est comment on peut définir la sœur de lait? On disait c'est celle qui a tété avec lui. Alors, on ne sait pas quelle est la quantité. Bon, quand elle a tété pendant un an, il n'y a pas de problème. Mais si elle a tété 15 jours, c'est-à-dire qu'elle a pris que deux petites gouttes de lait de la mère, est-ce que ça peut considérer que c'est une sœur de lait? Non. Le hadith disait 10, c'est-à-dire qu'il était tété 10 fois et qu'il ait rassasié son ventre pour que ça devienne des sœurs de lait. Et maintenant, ce qui est l'application qui est retenue par les musulmans, c'est 10, c'est 5. Donc nous aurions à faire ici un verset coranique, parce que Aïcha a dit parmi ce que nous lisions du Coran. Donc on aurait un verset coranique qui a été supprimé et la règle qui en découlait a été supprimée aussi, elle a été remplacée par 5. Je vous dis, la plupart des savants disent que plus qu'un verset abrogé, c'est plutôt un hadith qui est venu remplacer un autre. Mais certains disent non, ce hadith de Aïcha, il est vrai, et donc il y a bien eu un verset qui est venu un jour dire que 10 allaitements interdisés et qui a été reporté à seulement 5. Donc ça, c'est la première abrogation. Donc on a le verset et la règle qui ont décrit, la prescription qui ont décrit, qui ont été supprimées. Le deuxième, et c'est le plus courant du truc, c'est l'abrogation de la prescription, donc de l'obligation, mais le verset reste dans le Coran. Et cela, on en a tout un exemple, c'est ce qu'on comprend. Par exemple, le vin, les interdictions du vin. Nous savons que le vin a été interdit en 3 étapes. Le premier en disant que le vin, il y avait le premier verset qui a été révélé en disant que le vin, il y avait des biens et du mauvais dedans et que c'est le mauvais qui surplantait le bien. Le deuxième verset qui est venu pour parler du vin, voilà taqrabu as-salata wa antum sukara, ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Et celui qui est venu interdire le vin, hal antum muntahun, c'est-à-dire est-ce que vous allez arrêter, c'est un ordre divin, de consommer de l'alcool. Donc là, ces trois versets-là, ils sont encore là. Mais personne ne peut dire aujourd'hui, je peux prendre, boire du vin à condition que je ne sois pas saoul pendant la prière, en se basant sur le verset 2. D'accord ? Donc les deux premiers versets, ils sont là, mais la prescription, la seule qui est valable, la prescription des deux premières, n'est plus. C'est pour ça que, par exemple, dans les boissons, et dans la nourriture, dans les interdits, on peut manger du porc par nécessité, s'il y a risque de truc, mais on ne peut pas boire du vin, en aucune manière. D'accord ? Limite. Donc, plusieurs savants disent non. Parce que, on peut boire son urine, on peut. Alors que, bon, on peut pas manger ses excréments. Parce que le ventre, il en a même pas. Donc, c'est en se basant sur ça. Par exemple, il y a beaucoup de il y a toute une série. Par exemple, au départ, pour le combat, l'obligation, c'était un combattant musulman contre 20 combattants. Donc 1 pour 10. C'est-à-dire que le musulman avait l'obligation de se battre dans un combat, même si l'adversaire était 10 fois supérieur à lui. Et ce verset a été abrogé par celui qui est le suivant, qui dit Alim Allah annakum baynakum dhu'afa. Dieu sait que parmi vous il y a des malades et des trucs. Enfin, l'obligation du combat a été remplacée par 1 sur 2. C'est-à-dire que le musulman doit se battre même si l'ennemi est 2 fois supérieur, mais s'ils sont plus que 2 fois supérieurs, il arrête le combat. Donc il n'a pas l'obligation de se battre. Donc 1 sur 10 en premier, et ainsi de suite, il y a beaucoup de versets qui viennent les uns abroger les autres. On peut un jour peut-être consacrer un cours, mais bon, ce sera un peu pour des compléments. Et la troisième chose, c'est l'abrogation du verset sans sa prescription. C'est-à-dire qu'il y aurait des versets qui étaient dans le Coran, qu'on a supprimés et qui on a gardé la prescription. Alors là, là aussi, les savants sont très très sceptiques à ça. Ils disent aussi que Allah. On avait un verset coranique qu'au bout d'un moment, on a dit, il ne fait plus partie du Coran, c'est le prophète, il a dit, vous le supprimez. Mais je vous dis, l'exemple de celui-là, c'est un hadith qui est rapporté par Omar radiallahu anhu, qui disait, parmi ce qu'on lisait dans le Coran, Al-Shaybu al-Shaybatu, Iza Zanea, Fajliduhum al-Batta. La vieille personne, le vieillard et la vieille, s'ils ont commis l'adultère, lapidez-les jusqu'à la mort. Alors ce verset n'existe pas dans le Coran. Et la prescription de la lapidation est toujours dans la charia, elle existe toujours. Donc on n'a rien versé qui a été supprimé. La plupart des savants disent c'est Omar a mal compris, c'était un hadith du prophète et non pas un verset coranique. Donc le verset n'a jamais existé, ce qui est le plus proche de la raison et de la logique, parce que pourquoi enlever un verset alors que la loi demeure? C'est enlever une justification à un truc. Donc, le plus proche, c'est que probablement c'était un hadith et qui n'a pas été... qui n'était pas parmi qui n'était pas dans le Coran. D'accord ? Donc ça, on a à peu près les trois formes d'abroger et d'abrogeon. Donc il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que le Coran vient abroger le Coran. Ça, tout le monde est d'accord, c'est ce qu'on a vu avant. Le Coran vient abroger une sunna, une habitude du prophète. Ça, tout le monde est d'accord après. Une sunna abroge une sunna, ça tout le monde est d'accord, mais qu'une sunna mutawatira abroge le Coran, ça tous les savants ne sont pas d'accord. Une sunna mutawatira, c'est-à-dire qu'une sunna qui s'est perpétuée, qui est devenue très célèbre chez les compagnons, elle ne peut en aucun cas venir supprimer un verset coranique chez certains savants. Chez d'autres, ils disent si. C'est la preuve que le verset coranique a été supprimé. Mais le verset demeure. On n'a pas supprimé du Coran, c'est l'application qui a été supprimée. D'accord ?
Et la première fois ?
Mutawatir, c'est-à-dire qui est célèbre, qui est connu par tous. Donc ça, c'est ce qui concerne l'abrogeant et l'abrogé. Alors, il y a un gros dilemme et un gros problème concernant l'abrogeant et l'abrogé, c'est ce qu'on appelle sur Seif. Seif. Alors, celle-là cause énormément de problèmes aux savants et elle est la cause de très gros soucis. Alors, Sourate Saif, c'est, d'après la plupart des savants, c'est le verset 5 de Tawbah, qui dit فَإِذَنْ سَلَخَ الشُّهُرُ الْحَرَمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Après les mois sacrés se terminent, tuez les associateurs où que vous les trouvez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les en toute embuscade. Si ensuite ils se repentent et accomplissent la salette et quittent la zaquette, alors laissez-les dans la voie libre, car Allah est pardonneur, miséricordieux. Donc ce verset dit qu'on doit combattre tous les associateurs, comme le mouchéki. Donc c'est pour ça qu'elle a été nommée le verset Eight safe. Il n'y a pas le mot safe dedans, elle est épée, mais parce qu'elle ordonne le combat contre tous les associateurs. Tous les savants sont d'accord que ce verset est descendu pour les Arabes de la péninsule arabe. Ce qu'il appelle ici le Mushriki, c'est ceux qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là, ils n'avaient plus le choix après ce verset-là que de se soumettre à l'islam ou d'être combattu. Alors que nous savons que dans toutes les conquêtes musulmanes, tout le monde avait le choix entre ou se convertir ou garder sa propre religion à condition qu'il paye une dîme. Donc, et on ne combat pas tous ceux qui ne nous combattent pas. D'accord ? Alors, pourquoi certains savants disent que cette haie qui est descendue, c'est sur les Arabes de Médine, Mushrikine, enfin de la Jazira Aram, est devenue une règle générale qui concerne tous les mécréants, où qu'ils soient. Elle n'a plus, c'est-à-dire que là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que les causes de la révélation est une chose et l'expression de la révélation du texte est autre chose. C'est pas parce qu'elle parle des gens de la péninsule arabe qu'elle ne parle pas de tous les mécréants. Est-ce que je suis clair? Non. Ce verset parle des mécréants de la péninsule arabe. Ils n'avaient plus le choix après les 20, quasiment c'est un des derniers, ceux qui est descendu, de combattre le prophète, que de se soumettre à l'islam ou de quitter la péninsule arabe ou d'être combattu tout le temps. Ils n'avaient plus le choix. Donc c'est pour ça qu'il dit combattez-les où vous les trouvez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toutes les embuscades, toutes les manières de la guerre de les combattre est autorisée. Et elle est venue parler des associateurs arabes. Mais le terme qui est employé, il ne spécifie pas que c'est les associateurs de la péninsule arabe. Le mot, il est général. Donc, on a une interprétation du verset qui est due aux causes de la révélation. Les causes de la révélation, c'est que c'est, ce verset-là est venu parler des associateurs de la péninsule arabe. Et on a un texte qui ne le spécifie pas, puisqu'il dit mushrikine dans un sens général, associateur dans un sens général, sans désigner les Arabes en particulier. Donc la différence entre les savants, est-ce que ce texte il est général ou spécifique? Les uns maintiennent qu'il est spécifique, qu'il ne parle que des associateurs arabes, et d'autres qui ont dit non, il est général. Et donc, quand c'est un des derniers versets, ce verset-là, il a aboli tous les versets qui nous recommandent de bien nous comporter avec les gens du livre. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Eid Seif, le verset du Seif. Et donc, là, il y en a eu, il y a des gens qui sont venus dire que ce verset-là, il a aboli le tiers du Coran. D'autres, ils ont dit 150 versets. D'autres, ils ont dit non, il n'en a aboli que 50. D'autres, on a eu une divergence entre les savants énorme. Malheureusement, il n'existe pas de preuve de tout ce qu'ils avancent. Parce qu'on n'a aucun hadith sûr. On a des hadiths de certains compagnons, mais qui ne spécifient pas l'origine de leur croyance du fait que ce hadith, que ce verset-là a aboli notre autre verset, puisqu'il n'est pas explicite. D'accord ? On sait les causes des révélations, et en plus, si ce verset abolit plus d'une cinquantaine ou cent versets, pourquoi ces versets sont restés dans le Coran ? Ça porte à confusion. Et un verset peut-il abolir 50 ? Ou 100 ? Ou 150 ? Ou 250 versets ? Et on a eu des absurdités, par exemple certains savants, pas la peine de citer lesquels, qui ont dit que certains versets ils ont été abolis, que le début est aboli mais pas la fin du verset. Donc dans un même verset on aura une partie qui est abolie, c'est même un autre verset où le début est aboli, la fin est abolie mais pas le milieu. Donc il y a beaucoup d'excès. Ce que je retiens moi, et ce qui me semble le plus près, c'est que ce verset-là doit rester spécifique aux Arabes aux mushrikines de la péninsule arabe, parce que le musulman aurait dû être en guerre pendant toute l'islam jusqu'à la fin des temps, jusqu'au dernier truc, contre tous ceux qui ne veulent pas croire en l'islam. C'est l'obligation de combattre tous ceux qui ne sont pas musulmans. C'est ce que nous impose le verset. Et donc, quels sont tous les versets qui nous parlent d'équité et d'équivalence et tout? Nous allons attaquer des gens qui sont en contradiction sur le simple. Non. Il n'est pas possible qu'Allah ait instauré, qu'il ait abolé des versets aussi importants. Voilà, tartadou, Allah la yuhibbul mu'tadin. N'agressez pas, Dieu n'aime pas les agresseurs. Ce verset est aboli par le verset Eid Seif. Ou alors, il devient spécifique. Voilà, tartadou, ça ne concerne que les musulmans. Alors que le sens général du verset, voilà, tartadou, c'est attaquer qui est interdit. D'accord, donc on ne peut pas ça transformerait. Donc moi je dis que méfions-nous. Eid Seif, c'est quelque chose qui a peut-être servi à un certain moment plus des crépuscules à se combattre entre eux qu'une réalité qui doit perpétuer. Et de toute façon on n'a même pas un hadith qui dit que ce verset là s'appelle Eid Seif. Donc on n'a aucun hadith juste qui parle de Eid Seif. Ça, c'est pour fermer. Mais vous allez forcément, si vous lisez, vous allez forcément tomber un jour ou l'autre sur Eid Seif. Donc, méfiez-vous. Tous les groupes extrémistes vont utiliser Eid Seif pour prouver toute agression contre les autres.
Et ensuite,
en fait,
il est mort longtemps après.
Oui.
Et il
n'a
pas parlé de
ce. Ah non, il n'a jamais parlé de Aid Safe. Il n'a jamais parlé. D'autant plus que certains versets, vous verrez, chronologiquement, certains versets qui sont abolis, que certains savants disent qu'ils sont abolis, sont postérieurs à cette révélation, à la révélation de Aid Safe. Donc, l'abrogeant ne peut pas précéder l'abrogé. Forcément, celui qui est abrogé, forcément qu'il soit révélé avant celui qui vient le supprimer. Il ne peut pas être révélé après. Pourquoi révéler quelque chose qui est déjà supprimé puisqu'on a un texte qui vient là. Donc,
les savants se considèrent comme étant abrogeants, sont d'accord sur la chronologie ?
Oui. Ils sont d'accord. Bien sûr, ils vont dire, mais il y a une suspicion sur la chronologie de ce verset. Les certains ne s'en occupent même pas. Ils disent, c'est celui qui est abrogé, ils ne s'occupent pas. Pour eux, la chronologie, c'est quelque chose qui est n'ilm von. C'est-à-dire qu'on n'a pas des certitudes fermes et tout. Pour qu'on ait une certitude ferme, il faudrait qu'on ait un livre certifié qui soit dans l'ordre chronologique de la révélation. Ils disent non. C'est parce que pour certains sourates, on a une différence. On a une différence entre la poste. Par exemple, pour Sourate Kef, l'histoire de la révélation de Sourate Kef, c'est, on a posé trois questions au prophète. Or, quand il parle de l'âme, elle n'est pas dans Sourate Kef, elle est dans celle qui la précède, qui est Isra. Mais le savant explique ça que il a terminé Sourate Isra en répondant puisque c'est la fin de Sourate Isra et une nouvelle sourate est commencée parce qu'elle est plus globale. Et donc, en fait, comme elles se suivent, elles sont séparées par le contenu là, mais pas par la réalité de la révélation. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a reçu la fin de la révélation de l'Isra avec le début de la révélation du Kef. D'accord ? Non. Il y a toujours une interprétation dans la Bible. Le cinquième élément de divergence entre les savants, c'est ce qu'on appelle le mahkum al-mutashab. On a parlé tout à l'heure de ce qui était mutashab. Le mahkum, c'est l'explicite. C'est-à-dire, un seul sens, une seule explication. Le terme, il est clair. Quand on dit yad Allah, yad, main, c'est une main. Le terme de main, il a beau être explicite, le verset, lui, s'équivoque. Donc, par exemple, le wa aqimu salat, c'est la prière, c'est un terme explicite, la prière est obligatoire, on ne peut pas. Donc, quand vous lisez quelque chose, vous comprenez très bien que c'est le premier sens qui vous vient qui est le bon. Il n'y a pas besoin de truc. Et l'équivoque, l'explicite, les savants ne sont pas en divergence parce que c'est vraiment le texte comme tout. Sauf ceux de le bâtini, c'est-à-dire ceux qui vont chercher les sens cachés parce que pour eux il y a un sens caché qui n'est compris que par une certaine élite du Coran. On va voir dans des trucs simples, des explications complètement.
Pour le verset d'Allah, il n'y a pas de.
Ça, c'est Mutashab.
D'accord.
Ça, c'est un verset Mutashab. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens, mais dans le vrai sens, c'est seul Dieu connaît le vrai sens de ce qui est équivoque, c'est-à-dire celui qui a plusieurs trucs. Et là, il y a, si vous voulez, il y a trois sens, il y a trois différents sens d'équivoque. Il y a trois différentes classifications de l'équivoque. Il y a l'équivoque qui a, on appelle le mujmal, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs interprétations, il faut une interprétation détaillée pour le comprendre. Il y a certains versets de ça qui sont, et on a besoin d'une explication détaillée pour comprendre le sens du verset. Donc il faut qu'on ait une explication bien détaillée pour le comprendre. Le deuxième, ce qu'on appelle le mot awl, c'est qui n'a d'explication que qui n'a de sens que après une explication. C'est-à-dire que quand vous lisez le verset, vous ne le comprenez pas. Il faut qu'on vous donne une explication pour que vous le compreniez. C'est-à-dire que dans le premier, vous pourriez avoir une idée de sa compréhension, mais il faudrait qu'on vous explique longtemps pour que vous le compreniez. Dans le deuxième, le premier, c'est que vous pourriez comprendre les mots. Vous pouvez comprendre les mots, vous pouvez comprendre une direction générale, mais le sens du verset, il ne peut être compris que si on vous donne une explication détaillée. Par exemple, l'interprétation de ça, c'est sort l'Hajj, c'est quand on dit wa laysa al-birru an tadkhul al-buyuta min abwabiha walakin min dhuhuriha walakin al-birru man amana billah. La vraie piété, ce n'est pas de rentrer dans les maisons par l'arrière. On se dit, qu'est-ce que ça vient faire? Bon, on comprend le verset. Ne rentrez pas par les... La vraie piété ne consiste pas... Il parle du pèlerinage. Il dit, on a dans un verset qui parle du pèlerinage, il dit, la vraie piété ne consiste pas à rentrer dans les maisons par l'arrière, mais de craindre Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que ça a à voir? Vous comprenez le sens. D'accord? De rentrer dans le... Il faudrait que je vous explique que c'était une tradition, que avant enfin il vous explique tout là, c'est qu'en fait la tradition était que quand quelqu'un décidait d'aller faire le pèlerinage, il s'interdisait de rentrer dans sa maison par la porte. Il fallait qu'on lui ouvre une porte spéciale pour vous. Et donc il y a toute une histoire. Il faudrait que je vous la raconte dans le détail pour que vous compreniez le verset. Donc c'est quelque chose qui est compréhensible à première approche pour vous, mais qui ne peut être compris dans son vrai sens qu'après une longue explication. Donc ça, c'est le moujmel. Le mot awl, c'est qui n'a de sens qu'après une explication. C'est-à-dire que au premier, même dans la première approche, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. D'accord? C'est par exemple des termes de Gilberbe ou des trucs comme ça, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire un Gilberbe quand on n'est pas de culture musulmane, un truc comme ça? On ne peut pas le comprendre. Donc il n'a de sens qu'après une explication. Et le troisième, ce qu'on appelle Mouchakel, c'est-à-dire qu'il y a un sens obscur, ambigu, ou alors là, seul Allah peut connaître le sens. C'est les Yadullah ma Mansouta, Yadullah Maghloula, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, c'est tout ce qui vient parler, l'anthropomorphisme, ça, pour le visage d'Allah, la main d'Allah, nous croyons qu'Allah a une main, qu'il a un visage et tout, mais est-ce que ça ressemble à nous? Est-ce que ça veut dire que ça c'est. On comprend le sens, mais ça n'a pas de réalité pour nous. Donc ça c'est ce qu'on appelait l'explicite et l'équivoque. Donc les savants vont ça, des fois dire ah non mais ça c'est ça désigne ce terme ça et l'autre dit non pas du tout, ça ne désigne pas ça. D'accord? Donc on a une différence sur ça. Le sixième point, c'est le général et le spécifique. Al-'Am ou al-Khas. Est-ce que le verset a un sens général qui s'applique à tout le monde ou est-ce qu'il a un sens spécifique? Et là, les savants se sont divergés sur ça. Est-ce qu'ils s'adressent à tout le monde ou à une partie, à un truc? Donc, ils ont établi des règles, des trucs. Par exemple, pour qu'un verset soit général, il faudrait qu'il y ait certains termes dedans, comme par exemple kul, jamir, tous ensemble, kaf, tous ensemble. Kullu nafsin za'iqatul maut, chaque âme va mourir. Le mot chaque kul veut dire que c'est général, c'est pas une, parce que le terme kullu nafsin za'iqatul maut est venu au singulier, c'est-à-dire une âme va mourir. Enfin, c'est la première compréhension. C'est une âme va mourir. Mais kulluna, c'est-à-dire que c'est toutes les âmes. Que toute la création va connaître la mort. Donc, ça, les savants peuvent diverger pour sur un sens s'il est général ou spécifique. Ce qui est spécifique, c'est quand le terme lui-même est spécifique. Il dit, par exemple, le terme de communauté, qawm, ta'if, un groupe d'entre vous, fariqan. Tous les versets où on a ces mots-là qui viennent, on voit que ce n'est pas un verset qui s'adresse à tous. Ce qu'on appelle fardu ayn, fardu kifaya. C'est-à-dire que si un groupe s'en occupe, ben, les autres n'ont plus l'obligation. D'accord ? Donc, généralement, ça fait la distinction entre le sens des trucs. Le septième point de divergence aussi, et une spécificité du Coran, c'est ce qu'on appelle les versets libres et les versets liés. Al-mutlaq wal-muqayyad. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot libre? C'est libre, ça veut dire que, les mutlaq, ça veut dire que là, ce qu'il exprime est une vérité qui n'a aucune condition. C'est une vérité telle qu'elle est. Elle ne peut pas être restreinte. Par exemple, le verset de Zihar, الذين يظاهرون منكم نسائكم, et le verset dit, celui qui dit que sa femme lui est interdite comme si c'était sa mère, doit libérer un esclave. Donc, ce verset-là, il explique la condition qui doit libérer un esclave. C'est celui qui dit à sa femme qu'elle lui est interdite. Et il doit libérer quoi? Un esclave. Comment doit être l'esclave? C'est un esclave. Qu'il soit musulman ou non musulman, femme, homme, enfant, c'est un esclave. Donc, c'est mutlaq, ça veut dire que sans condition. D'accord? Pour une punition, c'est une condition. Ou le muqayyad, si on prend par exemple pour la libération du truc, c'est celui où man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minan, et celui qui tue un croyant par erreur doit libérer un esclave musulman. Celui-là, la libération de l'esclave doit être un esclave musulman. Il ne peut pas libérer n'importe lequel, il faut qu'il soit musulman, à condition qu'il ait tué un musulman et par erreur. Donc il y a des éléments qui viennent justifier, c'est pour ça qu'on appelle Mokhaï, c'est-à-dire lié, ce qu'il doit faire est conditionné par les conditions de l'erreur qu'il a commise, et les conditions sont conditionnées par la repentance qu'il doit exaucer. Donc les deux sont liés, ils ne peuvent pas être séparés. Alors que les premiers, c'est libre. Il a un choix. En fait, il peut. Il a le choix dans le truc. Donc, c'est les versets qu'on appelle mutlaq ou muqayyad. Le huitième, c'est ce qu'on appelle le littéral et le compris. Le mantouq ou le mafoum. Alors, le littéral, c'est quand vous dites quelque chose, c'est compris du. Par la lecture même. Le fait qu'on vous le dit, vous le comprenez. Par exemple, dans les versets du pèlerinage, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَعَشْرَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ. C'est le verset, il est clair. Pour celui qui ne peut pas égorger, qui n'a pas les moyens d'égorger, doit jeûner 3 jours pendant le pèlerinage, 7 jours quand il est chez lui, ce qui fait 10. Le verset est clair. Il n'y a pas à interpréter quoi que ce soit. Quand on vous le dit, vous comprenez même la règle qui en découle. Celui qui ne peut pas égorger doit jeûner 3 jours pendant le pèlerinage. 7 jours, c'est après 7 jours quand il rentre chez lui. Donc, il est clair. Il n'y a pas besoin qu'on vienne l'expliquer, vous l'interpréter. On peut avoir des questions particulières, mais le fait même de l'énoncer, le zakari mustahab al-unsayyin, la moitié, c'est le garçon a le double de ce que touche une fille, il est clair, le verset, il n'y a pas besoin. On le comprend par le fait même, c'est pour ça qu'on dit mansour, ça veut dire qu'il est littéral, qu'il est dit avec des paroles. Et les paroles sont comprises par tout le monde, il n'y a pas besoin de devenir quelqu'un qui va dire ah non, 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 mais ça ne veut pas dire ça. Trois jours, c'est pas trois jours, hein, c'est trois jours avec deux séjours-là spécifiques, tel jour, et tel. Non, non, ça. Il dit trois jours et sept jours après. Il dit pas compte en effet et tout, ça. C'est trois jours. Le fait même de l'énoncer, il est la compréhension du texte, c'est truc. Non, on peut. Mais après, la sonne a bien expliqué certains trucs, mais si elle ne vient pas l'expliquer, le texte reste clair. Mais en fait, quand on vous le dit, il est clair. Il est clair. Trois jours, on peut. Ça, on va en parler après, c'est le point de 10, c'est la compréhension des mots. C'est important dans le Coran. Mais on va en parler plus tard. Le deuxième, c'est le compris. C'est-à-dire que vous comprenez alors que le texte ne le dit pas. ولا تقربوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن. Ne vous approchez pas des femmes quand il parle des menstrues jusqu'à ce qu'elles se purifient. Tout le monde comprend. ولا تقربوهن, ne les approchez pas. C'est pas un sens figuratif ou un sens physique de les approcher dans le truc. On dit bien, on sait très bien que le texte désigne les rapports sexuels, mais il n'en parle pas. Donc, on comprend le sens du verset alors que le sens des mots n'indique pas ça. Est-ce que c'est clair? Donc le premier, le sens, il est très clair, il est compris par tout le monde. Le deuxième, il est compris par tout le monde alors que le sens n'y est pas. Non, ça c'est autre chose. C'est pas voilà taqrabuhun, il s'est pas chef, il ne s'est pas basé sur ça. Il s'est basé sur le terme l'aimes comme l'initial. D'accord? Une différence. Parce que le moulam, ça, lui, il dit l'ams ou le moulam, ça, sont différents. Parce que c'était un linguiste très fort, donc, c'est pour ça que sa justification, on la garde toujours. Mais là, voilà, taqrabuhun, ne vous approchez pas. Quand on dit ne vous approchez pas, c'est pas s'approcher. Donc, tout le monde comprend qu'on parle de l'acte sexuel ici, d'accord? Donc, le terme, il est compris par tout le monde, alors que le texte, le truc. Après, le point 9, c'est les lectures. On a certaines lectures qui sont différentes selon les rapporteurs. Alors ça peut donner des petits sens de contradiction, enfin de divergence entre les savants. Mais le sens général du Coran, quelle que soit la lecture, reste le même. D'accord? Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un domaine qui ne présente pas beaucoup de difficultés. Même si on a mis d'autres lectures que celle qui est la plus tricte, généralement le sens ne vient pas. Alors, quand on rentre dans des explications pour revenir plus terre à terre, on rentre dans des explications concernant le texte lui-même. Et concernant le texte lui-même, c'est la première des divergences, c'est le sens des mots. Ça, c'est ce qui va faire la différence quand on va comprendre le sens des mots. Par exemple, si nous prenons par exemple le verset, j'essaie de le trouver, le verset des ablutions. Donc, c'est verset de Maïda. Donc, le verset 6 de Maïda. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Donc il dit, pour vous les croyants, lorsque vous vous levez, vous connaissez tous le verset. Alors, quelle peut être la différence entre les savants, puisqu'on va parler après des ablutions? C'est par exemple que veut dire le terme wajh, face. Et les savants ne sont pas été d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que la divergence vient de la compréhension du terme dans le sens littéral arabe. Le Coran est descendu dans une langue arabe. Que veut dire le terme visage? Les savants, ils ont dit, ce qui est vu de face, les oreilles rentrent dedans. Les uns, ils ont dit oui, les oreilles, le nez, la bouche, les yeux rentrent dans la face. Et ils ont donné comme preuve, c'est quand on fait le magmaza ou le stincher, on lave la bouche et le nez, parce qu'ils font partie de la face. Les autres, ils ont dit non. Les Arabes ne donnent pas ce sens-là au mot visage. Le mot visage concerne que la face, la partie extérieure, ne peut pas concerner une partie intérieure. Donc la compréhension du mot va donner la différence entre les savants. Les uns vont rendre obligatoire le lavage de la bouche et du nez, et d'autres vont dire non, c'est une sunna. Le verset coranique dit le visage, les mains jusqu'au coude, essuyer les cheveux et laver les pieds. Ça s'arrête là. Laver le nez, la bouche, essuyer les oreilles font partie de la sunna. Et d'autres disent non, d'après ce verset, la bouche, le nez, le visage font partie du visage et donc ils sont obligatoires de les laver. D'accord ? Donc, le mot, la signification du mot va donner la divergence. Le début même va donner une divergence. Si vous vous levez, qu'est-ce qu'on entend par lever ? Tous en comprenant si vous faites la prière. D'accord ? Si vous vous levez pour la prière. Et d'accord, la salat. On a deux écoles différentes dans l'interprétation. Zahiri qui disent à chaque prière, l'obligation, on a l'obligation de faire la prière, même si on est que les ablutions ne sont, sont encore, on est encore en état d'ablution. Donc, pourquoi ils disent ben, à cause de ce verset-là. Il va comme ça. Donc, chaque fois que vous vous levez pour la prière, il faut faire les ablutions. Et les autres disent non. Si vous êtes sur une impureté, le verset ne dit pas, il va comme ça, c'est-à-dire si vous faites la prière. Mais si on est sur un état de pureté, on n'a pas besoin de faire l'ablution. Donc, l'interprétation du mot va donner une différence dans la manière d'établir la jurisprudence du wudu après. Un autre truc, le ghassl, laver, que veut dire le mot laver? On a deux écoles aussi là-dessus. Laver, pour certains, c'est verser de l'eau sur quelque chose. C'est le madhab de Abu Hanifa, le chef. Mais qui dit non, il dit laver, il faut qu'il y ait un frottage. Si on ne frotte pas avec la main, c'est pas laver, parce que quand vous trempez un tissu dans sale dans de l'eau, il n'est pas lavé, il faut le frotter. Et frotter pour lui fait partie du laver, donc il faut frotter. Il y a un troisième groupe qui dit non, c'est pas obligatoire, mais c'est une sunna. Pourquoi? Pour s'assurer que l'eau, l'eau elle vient arriver à la deuxième partie. Et par exemple, on verra dans les détails tous les arguments, mais par exemple la réponse de l'imam Malik, ils disent il faut frotter le tissu pour le rendre propre, et ils disent non, parce que si on le trempe dans l'eau, il est pur. Parce que l'eau, on lave l'impureté du tissu, donc on n'a pas l'obligation dans l'islam. Ce n'est pas une propreté ada de coutume, c'est une propreté de ibada qui a certains trucs. Donc les uns se répondent par rapport aux autres. Mais la compréhension même du mot va, quand on fera les règles des ablutions par exemple, on aura des différences dans les écoles. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas tous la même. C'est-à-dire que les gens sont. Ils ont cerné le problème de tous les côtés. Et en appliquant chacun sa conception et sa manière de voir l'islam, on aura toute une raison. Donc la première, c'est le sens des mots, le sens, le terme et le sens du truc. Après, on aura le sens des révélations. Après, on aura un truc, et ainsi de suite, on aura toujours différent. On aurait pu continuer, hein, vous verrez que ce verset-là, il est interprété, et quand on fera les ablutions, vous verrez qu'on reprendra ce verset-là, et vous verrez qu'avec le même texte, les gens vont pas être d'accord, parce qu'ils donnent une interprétation différente, au terme même coranique, sans tenir compte de la sunna. On n'est pas encore arrivé au hadith, hein. D'accord? Donc le sens des mots fait partie, parce que la compréhension du terme, quand je vous dis un mot, chacun va le comprendre à sa manière, lui va lui donner une interprétation. Et après, le sens général de truc, est-ce que يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. Est-ce que le sens général de ce verset-là est venu dans un sens d'obligation ou de préférence ou il me laisse le choix ou quel est le sens général du texte? Est-ce que j'ai l'obligation de le suivre? Est-ce que on me laisse le choix? Est-ce que ça ne s'adresse pas à moi? Et ça, ça a aussi une divergence entre les trucs. Et tout cela, bien sûr, les musulmans se sont beaucoup intéressés à ça, ils ont tout répondu, et on retrouve tout ça dans ce qu'on appelle Ulum al-Qur'an, pas Ilm al-Qur'an, Ulum al-Qur'an, les sciences du Coran, où on aborde tous les sujets, et donc il y a des spécialistes. Évidemment, étant donné que c'est une science tellement vague, on ne peut pas tous le truc. Donc il y a des petits livres qui sont faits, qui parlent de ça, de Ulum al-Qur'an, mais là on a vu à peu près tous les problèmes qui font la différence entre les mazhabs. Mais bien sûr dans chaque détail vous trouverez des avis, des trucs et des justifications de toutes les écoles, et c'est une science à part entière parce qu'elle nécessite un savoir qui est immense. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.